Chapitre 18. Des nouvelles pour le dragon.
Ça suffit, Loyal,
dit Rand, tout en bourrant son brûle-gueule, avec du tabac de théar au goût un peu huileux à cause du fumage. Mais il fallait faire avec. Dehors, l'orage continuait, lent et inexorable.
Tu m'épuises avec toutes tes questions.
Les deux amis étaient assis à une longue table, dans une des plus grandes pièces de la demeure du seigneur Algarin. Les restes du repas de midi attendaient encore, repoussés dans un coin. Ici, presque tous les domestiques étaient vieux, et ils se traînaient encore plus depuis qu'Algarin était parti à la tour noire. Même si la pluie se calmait un peu, des rafales de vent projetaient encore des gouttes contre les vitres, assez fort pour faire trembler les fenêtres. Beaucoup de carreaux de pauvre qualité avaient des bulles, certaines si grosses qu'elles empêchaient de voir ce qu'il y avait dehors. La table et les chaises, sobrement sculptées, correspondaient au mobilier de n'importe quelle ferme. Même modestie pour la corniche jaune qui courait en haut des murs, sous le plafond aux grosses poutres apparentes. Les deux cheminées, disposées à chaque bout de la pièce, étaient de bonne taille, mais en pierre ordinaire. Rien de particulier non plus en ce qui concernait les chenets, le tisonnier et la paire de pinces en fer. Tout seigneur qu'il fût, Algarin ne roulait pas sur l'or. Après avoir remis sa blague à tabac dans sa poche, Rand se leva, approcha d'un des foyers, prit une paire de pinces et saisit une braise ardente pour allumer son brûle-gueule. Avec un peu de chance, personne ne trouverait ça étrange. Ces derniers temps, il évitait autant que possible de canaliser. Surtout devant témoins, car le malaise qui s'ensuivait était de plus en plus difficile à cacher. Jusque-là, personne n'avait évoqué ce sujet. Une bourrasque provoqua un bruit sec, comme si des branches avaient percuté une fenêtre. Un tour de son imagination. Les premiers arbres étaient au-delà des champs, à près d'un quart de lieue du manoir. Du quartier des Augiers, Loyal avait apporté une chaise sculptée de lianes qui mettait ses genoux au niveau du plateau de la table. Du coup, pour écrire dans son carnet relié de cuir, il devait presque se plier en deux. À son échelle, le carnet était tout petit, assez pour tenir sans peine dans une poche de sa redingote. Cela dit, la plupart des livres pour humains que Rand avait vus étaient d'une taille inférieure. Au-dessus de la lèvre supérieure de Loyal, un duvet commençait à se voir, même chose sur son menton où apparaissait une esquisse de bouc. L'Augier tenait à arborer une moustache et une barbe dignes de ce nom. Après quelques semaines de pousse, le résultat n'était pas stupéfiant.
« Mais tu ne m'as rien dit de vraiment utile !»
grogna l'Augier, l'équivalent d'un roulement de tambour, sortant de son énorme torse. Les oreilles en berne, il entreprit d'essuyer la pointe en acier de son porte-plume en bois. Plus gros qu'un doigt de Rand et assez long pour sembler fin, l'objet s'adaptait parfaitement au battoir de Loyal.
« Aucun récit héroïque te mettant en scène. Avec toi, ce sont toujours les autres, les héros. Vraiment, c'est d'une banalité. Quand tu la racontes, la chute d'Iliane est aussi excitante que regarder une tisserande réparer son métier. Et la purification de la source authentique, Ninevée et toi liés, assis face à face, en train de canaliser, pendant que tous les autres affrontaient les rejetés. Même Ninevée m'en a dit plus long que toi. Pourtant, elle prétend avoir tout oublié. »
Lestée de tous ses bijoux, des terrangréales et de son étrange angréal bracelet et bagues, Ninevée bougea un peu sur sa chaise, devant l'autre cheminée. Puis elle recommença à observer Alivia. De temps en temps, elle jetait un coup d'œil aux fenêtres et tirait sur sa natte, mais pour l'essentiel, elle se concentrait sur la séanchanienne blonde. Debout près de la porte, comme une sentinelle, Alivia eut un bref sourire amusé. L'ancienne Daman savait que la quincaillerie de Ninevée était à son intention. Malgré ça, ses yeux bleus perçants restaient étincelants d'intensité. Depuis qu'on lui avait retiré son collier à Kemlin, il en était ainsi presque en permanence. Assises sur les talons, les deux promises de la lance jouaient à des jeux de ficelle. Arilin, du clan de la montagne de fer des Ta'ardad, et Enaïla, du clan Jarad et Charin, frimaient à leur manière. Un choufa autour de la tête, leur voile noire pendant sur la poitrine, elles avaient glissé trois ou quatre lances dans le harnais de l'étui de leur arc, et une rondache recouverte de cuir reposait à leurs pieds. Dans le manoir, on comptait 50 promises, la plupart des Shaido, et toutes étaient prêtes à danser avec les lances à la première alerte. Peut-être même contre Rand. Ravi de veiller de nouveau sur lui, ses guerrières semblaient lui en vouloir à mort de les avoir évitées pendant si longtemps. Le jeune homme, lui, ne pouvait pas les regarder sans entendre dans sa tête les noms de toutes les femmes mortes pour lui ou de sa main. Moiraine Damodred, elle plus que tout autre. Dans son esprit, son nom figurait en lettres de feu. Lia, du clan Kozaïda des Tcharin. Sendara, du clan de la montagne de fer des Ta'ardad. Lamel, du clan de l'eau fumée des Miagoma. Andiline, du clan du sel rouge des Gauchiennes. Dessora, du clan Moussara des Reines. Tant de noms. Parfois, Rand se réveillait au milieu de la nuit et récitait cette liste, tandis que Mine le serrait contre elle et le consolait comme un enfant. Pour le rassurer, il prétendait aller bien et vouloir se rendormir, mais les yeux fermés, il continuait à égrener sa litanie. Et de temps en temps, Loustérine la fredonnait avec lui. Mine leva les yeux de l'ouvrage ouvert devant elle sur la table. Un des livres de Héritfell, comme souvent. La jeune femme les dévorait. Comme marque-page, elle utilisait la note que l'érudit avait envoyée à Rand avant d'être assassiné, celle où il l'accusait d'être une source de déconcentration à cause de sa trop grande beauté. La courte veste bleue de Mine, brodée de fleurs blanches sur les manches et les revers, moulait à la perfection son torse, et l'échancrure de son chemisier de soie couleur crème révélait la naissance de ses seins. Encadrés de boucles noires, ses grands yeux sombres brillaient de satisfaction. À travers leurs liens, Rand sentait le plaisir chez sa compagne. Elle aimait qu'il la regarde, et sans nul doute, le lien lui transmettait le plaisir qu'il éprouvait à la contempler. Étrangement, il apparaissait qu'elle aimait aussi le dévorer des yeux. « Jolie, Mine ?» Rand fredonna en se tordant le lobe de l'oreille entre le pouce et l'index. Non, elle était superbe, et plus liée à lui que jamais. Mine, Elaine et Avienda, comment allait-il les garder en sécurité désormais ? Pour rassurer sa compagne, Rand se força à lui sourire. Mais il n'aurait pas parié qu'elle serait dupe. Dans le lien, il sentit un peu d'irritation, comme chaque fois qu'il s'inquiétait pour elle. Logique, puisqu'elle l'entendait le protéger.
« Rand n'est pas très loquace ce soir »,
dit-elle à Loyal, son sourire envolé. Dans sa voix, on n'entendait pas de colère, mais le lien clamait haut et fort qu'il en allait autrement.
« Parfois, il est aussi fermé qu'une huître »,
continua Mine. Sous le regard critique de sa compagne, le jeune homme soupira. Dès qu'il serait seul, il y aurait beaucoup de sujets à évoquer.
« Je ne peux pas t'en dire plus »,
regretta Mine.
« Mais je suis sûr que Katswane et Verin te raconteront tout ce que tu veux savoir. » D'autres te parleront aussi. Interroge-les, si tu cherches davantage qu'un oui ou un non accompagné de trois mots.
Assise près de Nineveh, la petite mais solide Vérine leva les yeux de son ouvrage quand elle entendit son nom. Perplexe, elle plissa le front. Sa boîte à couture ouverte devant elle, Katswane, à l'autre bout de la table, prit tout juste le temps de jeter un coup d'œil à Loyal. Du coup, les ornements d'or accrochés à son chignon grisonnant oscillèrent. Un simple regard s'enfonçait les sourcils, pourtant les oreilles de l'ogier frémirent. Depuis toujours, les Aes Sedai l'impressionnaient, et Katswane plus que tout autre.
« Je les interrogerai, Mine, ne t'en fais pas, mais Rand est le héros de mon futur livre. »
En l'absence de peau de sable, Loyal souffla sur les pages de son carnet pour que l'encre sèche plus vite. Fidèle à lui-même, entre deux petites bourrasques, il continua à parler.
« Tu ne donnes jamais assez de détails, Rand. » « Il faut toujours t'arracher les vers du nez. Si Mine ne s'en était pas chargée, tu n'aurais pas parlé de ton incarcération à Formading. Et qu'a dit le Conseil des Neufs en t'offrant la couronne de laurier? Et comment a-t-il réagi quand tu l'as rebaptisé? Je ne peux pas imaginer que ces gens aient aimé ça. Et le couronnement, à quoi ressemblait-il? Y a-t-il eu un banquet, une fête, des défilés? À Shadar Logoth, combien de rejetés as-tu affronté? Lesquels? Qu'en était-il de la ville après le combat? Et qu'as-tu éprouvé? Sans détail, mon livre ne sera pas très bon. Avec un peu de chance, Matt et Perrine m'en diront davantage. J'espère qu'ils vont bien. »
Tels deux arcs-en-ciel jumeaux se reflétant dans l'eau, des couleurs tourbillonnèrent dans la tête de Rand. Il avait appris à les chasser, mais pour cette fois, il n'essaya même pas. Un des arcs-en-ciel devint une image de Matt chevauchant en tête d'une colonne de cavaliers au cœur d'une forêt. Apparemment, il discutait ferme avec la petite femme noire qui avançait à ses côtés. Ôtant son grand chapeau, il jeta un coup d'œil à l'intérieur, puis le revissa sur son crâne. Cette vision se brouilla et l'autre arc-en-ciel devint une image de Perrine, assis devant un gobelet de vin, dans ce qui semblait être une taverne. Une femme et un homme en veste rouge bordée de bleu et de jaune lui tenaient compagnie, de drôles de vêtements. L'apprenti forgeron semblait sinistre, et les deux autres avaient l'air méfiants. À cause de lui ?
Ils vont très bien,
dit Rand, ignorant un regard noir de Katswane. Elle ne savait pas tout de lui, et il n'avait pas l'intention que ça change. Extérieurement calme, à faire des ronds de fumée avec sa pipe. À l'intérieur, c'était très différent.
Où sont-ils ?
Pensa-t-il, rageur, avant de bloquer un nouveau tourbillon de couleurs. Désormais, il faisait ça sans y penser. J'ai besoin d'eux et voilà qu'ils sont en vadrouille au jardin d'Anseline. Soudain, une autre image flotta dans la tête de Rand. Un visage d'homme qui, pour une fois, ne lui valut aucun malaise. Et là, il le vit clairement une fraction de seconde. Un type aux yeux bleus, le menton carré, peut-être un tout petit peu plus vieux que lui. En réalité, il voyait cette tête nettement pour la première fois depuis longtemps. À Shadar-Logoth, alors qu'il affrontait Samael, cet homme lui avait sauvé la vie. Mais il n'y avait pas que ça.
« Il est conscient de mon existence, » dit Lusterine.
Pas d'un ton de dément pour changer. Parfois, ça arrivait, mais la folie finissait toujours par revenir.
« Comment un visage qui apparaît dans ma tête peut-il avoir conscience que j'existe ?»
continua Lusterine. « Ma tête, s'il te plaît. Si tu l'ignores, comment veux-tu que je le sache ? Mais j'étais moi aussi conscient de son existence. » Une étrange expérience, comme si Rand touchait l'inconnu, mais pas physiquement. Une réminiscence planait encore en lui. D'un simple geste, mais dans toutes les directions, il aurait pu toucher son sauveur.
Je crois qu'il a également vu mon visage.
Pour Rand, dialoguer avec le spectre qui partageait son esprit n'avait plus rien d'extraordinaire, à tel point qu'il ne le faisait presque plus. Désormais, il pouvait voir Matt ou Perrine en pensant à eux ou en entendant leur nom, et il était hanté par un visiteur inconnu, bien plus qu'un visage, semblait-il. À côté de tout ça, qu'avaient de stupéfiants ces conversations intérieures. Mais le visiteur était conscient de l'existence de Rand, et réciproquement. Quand nos torrents de feu se sont touchés à Shadar-Logoth, ça a dû créer un lien entre nous. Je ne vois aucune autre explication. Et ce fut notre unique rencontre. Le type maniait le prétendu vrai pouvoir. Oui, ça doit être ça. Je n'ai rien vu ni senti, à part ces flux de torrents de feu. Avoir des connaissances qui lui semblaient siennes alors qu'elles lui venaient de Lusterine ne perturbait plus Rand. Il se souvenait bel et bien des jardins d'Anseline, détruits pendant la guerre des ténèbres. Aussi clairement, oui, qu'il se rappelait la ferme de son père. Le phénomène était à double sens. Parfois, Lusterine parlait de champs des mondes comme s'il y avait grandi.
« Tout ça a un sens pour toi ?» demanda Rand.
« Pourquoi dois-je entendre une voix dans ma tête ?» gémit Lusterine. « Pourquoi m'interdit-on de mourir ?»« Iliéna, ma précieuse Iliéna, je voudrais tant te rejoindre. »
Lusterine éclata en sanglots. C'était fréquent lorsqu'il évoquait l'épouse qu'il avait tuée dans sa folie. Une nuisance mineure. Sans effort, Rand réduisit les sanglots de Lusterine à un bruit de fond qui ne le dérangerait pas. Pour le reste, il était sûr d'avoir raison. Qui était l'inconnu? Un suppôt de ténèbres, très probablement, mais pas un des rejetés. Cela, Lusterine connaissait leur visage comme s'il était le sien, et désormais, Rand partageait ce savoir. Une pensée traversa son esprit, lui arrachant une grimace. À quel point le sauveur était-il conscient de son existence? Pour localiser un Taveren, on pouvait se servir des effets qu'il avait sur la trame, mais seuls les rejetés savaient comment s'y prendre. Lusterine n'avait jamais prétendu être dans ce cas. Leur dialogue restait bref, et le spectre ne lâchait pas d'informations volontairement. Et sur ce sujet, rien n'avait filtré de son esprit. Lanfear et Ishamael maîtrisaient cette technique. Depuis leur mort, personne n'avait retrouvé Rand de cette manière. Le lien avec l'inconnu pouvait-il avoir le même usage? Dans ce cas, ils étaient tous en danger. Encore plus que d'habitude, au cas où les risques quotidiens n'auraient pas suffi.
« Tu vas bien, Rand ?»
demanda Loyal en revissant le bouchon d'argent gravé de feuilles de son encrier. Très épais, le verre aurait résisté à presque tout. Pourtant, l'ogier maniait son trésor comme s'il était en sucre. Et entre ses énormes mains, l'encrier semblait effectivement fragile.
« J'ai trouvé un drôle de goût au fromage, et tu en as mangé beaucoup. »«
Je vais très bien, » répondit Rand.
Bien entendu, Nineveh n'en crut pas un mot. Se levant d'un bond, elle traversa la pièce d'un pas léger. Quand elle s'unit au Saïdar, Rand eut la chair de poule. Il la laissa pourtant lui poser les mains sur la tête. L'instant d'après, il frissonna. Cette femme ne demandait jamais l'autorisation. Souvent, elle se comportait comme si elle était encore la sage dame de Chandemonde, et lui un vulgaire bouseux.
« Tu n'es pas malade, » dit-elle, soulagée.
La nourriture avariée faisait des ravages parmi les serviteurs. Sans Ashaman ou Aes Sedai pour les guérir, beaucoup seraient morts. Par souci d'économie, une louable attention envers leur seigneur, ces gens ne jetaient rien, malgré les mises en garde répétées de Katsuane, de Nineveh et des autres Aes Sedai. Du coup, ils avalaient des choses qui auraient dû trôner sur un tas d'ordures. Sur son flanc gauche, la double blessure de Rand les lança fugitivement.
« Ça ne guérit toujours pas !»
se désola Nineveh. Elle avait tout essayé, sans plus de succès que Flynn.
le genre d'échec qu'elle prenait pour une insulte personnelle.
« Comment tiens-tu debout? Tu devrais te tordre de douleur. Il ignore la souffrance. »
Lâcha Mine. « Oui, il y aurait des choses à discuter. »« Debout, ça ne fait pas plus mal qu'assis, » précisa Rand à Nineveh. En douceur, il dégagea sa tête. En quelques mots, Mine avait tout dit. Il refusait d'être prisonnier de la douleur. Une des doubles portes s'ouvrit pour laisser entrer un homme aux cheveux blancs, vêtu d'une veste jaune et limée, bordée de rouge et de bleu. Trop grand, le vêtement pendait sur son torse famélique. À cause de ses articulations rouillées, sa révérence fut plus que minimaliste.
« Seigneur Dragon, »
dit-il d'une voix chevrotante,
« le seigneur Loghain est de retour. »
Se fichant du protocole, Loghain entra pratiquement sur les talons du vieux serviteur. Grand, des cheveux noirs bouclés tombant sur ses épaules, Loghain avait le teint très mat pour un homme originaire du Gael'dan. Les femmes le trouvaient sûrement attirant, mais il y avait en lui une sorte d'obscurité. Le col de sa veste noire ornée de l'épée et du dragon, il portait une lame sur la hanche. Mais à sa tenue, il avait ajouté une touche personnelle. Sur son épaule, une broche ronde arborait trois couronnes d'or sur champ d'azur. Quelque chose comme un sceau. Surpris par cette intrusion, le domestique regarda Rand pour lui demander s'il devait expulser le malotru.
« On peut dire que les nouvelles d'Andorre sont bonnes !»
annonça Loghain en glissant ses gants noirs dans son ceinturon. Comme s'il venait de s'en souvenir, il salua Rand d'un hochement de tête.
« Elaine tient Kemlin, et Arimila assiège toujours la ville. Mais l'avantage est du côté de la fille héritière, parce que l'autre prétendante ne peut pas l'empêcher de se ravitailler, ni de recevoir des renforts. Inutile de me regarder comme ça, je ne suis pas rentré dans la cité. Les vestes noires n'y ont pas trop la cote en ce moment. Les frontaliers n'ont toujours pas bougé. Tu as eu raison de rester loin d'eux. Selon les rumeurs, il y aurait 13 Aes Sedai dans leur rang. À ce qu'on dit, elles te chercheraient. Bachéré s'est-il remontré ? »
Nineveh foudroya Loghain du regard, s'éloigna de Rand et tira furieusement sur sa natte. À ses yeux, que les Aes Sedai lient des Achaman était une très bonne chose. En revanche, le contraire, 13 sœurs qui cherchaient Rand, s'il était resté loin des frontaliers, c'était parce qu'Elaine ne voulait pas de son aide. De l'ingérence, prétendait-elle. Pas tout à fait à tort, avait dû reconnaître Rand. Le trône du lion, elle devait le gagner, pas se le faire offrir sur un plateau. Au fond, être resté loin des frontaliers était peut-être très bien. Les dirigeants des terres frontalières avaient tous des liens avec la Tour Blanche, et Elaïda devait toujours rêver de mettre la main sur le dragon réincarné. Son décret délirant, nul ne pouvait approcher de Rand sauf par son intermédiaire, en témoignait. Si elle pensait le forcer à venir à elle, cette femme était mentalement dérangée.
« Étienne, merci, tu peux te retirer. »
Le vieil homme ne se le fit pas dire deux fois.
« Seigneur Loghain ?»
fit Rand, pendant que le serviteur s'éloignait, en jetant par-dessus son épaule un regard rageur à Loghain. Si Rand le lui avait ordonné, le vieillard aurait bel et bien essayé d'expulser l'intrus.
« Ce titre lui revient de naissance, »
dit Katswane, sans lever les yeux de sa broderie. Elle devait savoir de quoi elle parlait. Par le passé, elle avait aidé à recapturer Loghain, quand il se faisait appeler le dragon réincarné, à l'instar de Taïm.
« De la petite bière, »
continua Katswane.
« Un obliot avec dans les montagnes un lopin de terre tout en creux et en bosse. Mais le roi Johannine et le haut conseil de la couronne l'ont dépouillé de ses terres et de ses titres dès qu'il est devenu un faux dragon. »
Si les joues de Loghain se colorèrent un peu, il parla d'un ton neutre.
« Ils ont pu me prendre mon domaine, mais pas mon identité profonde. »
Toujours concentré sur sa broderie, un sacré leurre, Katswane eut un rire de gorge. Cessant de coudre, Vérine dévisageait Loghain comme un moineau bien gras étudie un insecte. Alivia fixait elle aussi Loghain. Ariline et Enaïla, en revanche, semblaient toujours concentrés sur leur jeu, mais il ne fallait pas s'y fier. Faisant semblant de lire, Mine se tenait prête à dégainer les couteaux cachés dans ses manches, ça se voyait la position de ses mains. Dans l'assistance, personne ne faisait confiance à Loghain. Rand plissa le front. Loghain pouvait se parer de tous les titres du monde, tant qu'il faisait ce qu'on lui disait de faire. Mais Katswane l'aiguillonnait sans cesse, comme tous les autres porteurs d'une veste noire, et comme Rand lui-même. Se méfiant aussi de Loghain, le jeune homme devait se contenter de ce qu'il avait sous la main.
« C'est fait ?»
demanda-t-il. L'arrivée de Loghain avait incité Loyal à déboucher son encrier.
« Plus de la moitié des effectifs de la Tour Noire sont en Arad Doman et en Ilian. J'ai envoyé tous les hommes qui ont un lien avec une Aes Sedai, excepté quand la sœur est ici, selon tes ordres. »
En parlant, Loghain approcha de la table, dénicha une carafe qui contenait encore un peu de vin et remplit un gobelet en faïence bleue. Chez Algarine, on trouvait très peu d'objets en argent.
« Tu aurais dû me laisser amener plus d'hommes ici. L'avantage des Aes Sedai est trop important à mon goût. puisque cette situation est en partie ton œuvre, la Charande. Tu devras vivre avec. D'autres y seront forcés aussi. Continue. Dès qu'ils auront trouvé quelqu'un capable de diriger davantage qu'un village, Dobraine et Rouark enverront un de mes soldats avec un message. Le conseil des marchands prétend que le roi Al-Salam règne toujours, mais ces gens sont incapables, ou refusent, de le montrer, ou de dire dans quel trou ils se cachent. Entre eux, les conseillers semblent à couteau tiré, et Bandar Eban n'est plus qu'à demi-déserte, livrée à la populace, en d'autres termes.
Logain fit la grimace au-dessus de son gobelet.
Des bandes de gros bras assurent ce qu'il reste d'ordre. Bien entendu, ces truands extorquent de l'or et des vivres aux gens qu'ils sont censés protéger. En fait, ils volent tout ce qui les intéresse, y compris les femmes.
De la fureur se déversa dans le lien. Quant à Ninévé, elle eut un rugissement.
Rouark a décidé d'arrêter ça, mais quand je suis parti, ça tournait à la bataille rangée. Contre des aïels, les gros bras ne tiendront pas longtemps. Si Dobraine ne trouve aucun chef digne de ce nom, il devra s'y coller lui-même, pour un temps en tout cas.
Si Al-Salam était mort, comme ça semblait probable, Rand devrait nommer un régent en Arad-Doman. Mais qui? Quelqu'un que les Domani accepteraient, avant toute autre considération. Logain but une gorgée de vin.
Taïm n'a pas aimé que j'emmène tant d'hommes hors de la tour noire sans lui dire où ils allaient. Ton ordre, j'ai bien cru qu'il le déchirerait. Et pour savoir où tu es, il a essayé tous ces trucs. Oui, il crève d'envie de te localiser. Ses yeux crépitaient littéralement de flammes. Si j'avais été assez idiot pour le rencontrer seul, il aurait été fichu de me mettre à la question. Un point l'a apaisé un peu, cependant. Je n'ai réquisitionné aucun de ses favoris. Le soulagement se lisait sur son visage.
Logain eut un sombre sourire.
Ses séides sont au nombre de 41, au fait. Ces derniers jours, Taïm a distribué une dizaine de broches dragons, et dans ses classes spéciales, il y a au moins 50 disciples. Pour l'essentiel, des hommes recrutés récemment. Il prépare quelque chose, et je doute que ça te plaise.
« Je t'ai dit de le tuer à la première occasion !»
cacta Loustérine, fou de rage.
« Je te l'ai dit, et maintenant, il est trop tard. Oui, trop tard !»
Rageur, Rand exhala un nuage de fumée bleutée.
« Laisse tomber !»
lança-t-il, autant pour Logain que pour Loustérine.
« Taïm a développé la tour noire, jusqu'à ce qu'elle égale la blanche, au moins en nombre. Et cette croissance continue. S'il était un suppôt des ténèbres, pourquoi aurait-il fait ça ?»
Logain soutint le regard de Rand. Parce qu'il ne pouvait rien faire d'autre.
D'après ce que j'ai entendu, dès le début, il y avait avec lui des hommes capables de voyager qui n'étaient pas ses larbins, et il n'a trouvé aucun prétexte pour toujours partir seul en mission de recrutement. Mais à l'intérieur de la tour noire, il a créé sa propre coterie, qui lui est aveuglément fidèle. À lui, pas à toi. Il a modifié la liste de déserteurs, puis s'est excusé pour ses erreurs involontaires. Mais tu peux parier ta chemise qu'elle n'avait rien d'involontaire.
Et la loyauté de Logain dans tout ça? Si un faux dragon trahissait, pourquoi pas l'autre? Logain pouvait penser avoir d'excellentes raisons pour ça. En son temps, il était un faux dragon bien plus célèbre que Taïm, et beaucoup plus doué. N'avait-il pas levé une armée capable de sortir du Gialdan et, sur le chemin de Théar, d'atteindre pratiquement Lugard? À une époque, le seul nom de Logain terrifiait la moitié du monde connu. Pourtant, alors qu'il n'était encore qu'un Ashaman parmi d'autres, Mazrim Taïm dirigeait déjà la tour noire. Autour de lui, Min voyait toujours une aura de gloire. Hélas, préciser dans quelles circonstances il réaliserait son destin était au-delà du pouvoir de ses visions. Rand retira le brûle-gueule de sa bouche, et le fourneau très chaud fit picoter le héron gravé dans sa paume. Sans s'en apercevoir, il avait dû aspirer furieusement la fumée. L'ennui, c'était que Taïm et Logain n'étaient pas sa priorité, un problème qui devait attendre, parce qu'il fallait se contenter de ce qu'on avait.
Taïm a retiré des noms de sa liste, ce n'est pas négligeable. S'il fait montre de favoritisme, j'y mettrai un terme dès que j'en aurai le temps. Mais laisser Anshanien passe avant tout ça. Et Tarmon Gaidon aussi, peut-être.
S'il fait montre de favoritisme,
répéta Logain, en posant son gobelet sur la table, si violemment qu'il se cassa, du vin coulant sur le plateau puis sur le sol. Furieux, l'ancien faux dragon s'essuya la main sur sa veste.
Tu penses que je me fais des idées? Ou que j'invente des choses?
Avec chaque mot, il s'échauffait un peu plus.
Altor, tu crois que je suis jaloux? C'est ça ton idée? Écoute-moi bien, Logain,
dit Rand, obligé d'élever la voix pour couvrir le fracas du tonnerre.
Rand Altor, tes amis en veste noire et toi,
intervint Katsuane.
J'entends que vous soyez courtois avec moi, mes alliés et mes invités. À présent, je décide que vous devez l'être aussi entre vous.
Les yeux toujours baissés sur sa broderie, la sœur parlait pourtant comme si elle brandissait un index devant le nez des deux hommes.
Au moins en ma présence. En conséquence, si vous continuez vos chicaneries, je pourrais bien vous flanquer une fessée à tous les deux.
Harilyn et Enaïla rirent si fort qu'elles entortillèrent leurs ficelles. Plus discrète, Nineveh mit une main devant sa bouche. Et Min elle-même s'autorisa un sourire. Furieux, Loghain serra si fort les dents que Rand crut les entendre grincer. Sur le point d'exploser lui-même, il maudit Katswane et ses fichues règles. Les conditions de la légende pour devenir sa conseillère. Selon elle, c'était Rand qu'en avait exigé pour son propre bien. Et elle en rajoutait sans cesse à la liste. Ces consignes n'étaient pas particulièrement contraignantes. Leur existence, en revanche, se révélait pesante. Mais la sœur s'en servait comme d'un aiguillon, et à la longue, ça devenait douloureux. Décidant qu'il en avait fini avec les contraintes, et avec Katswane s'il le fallait, Rand ouvrit la bouche pour lui en faire part.
« Quoi qu'il mijote, » dit soudain Vérine, « Taïm devra attendre que l'ultime bataille soit terminée. »
Posant son ouvrage, informe et indéfinissable sur ses genoux, la sœur continua.
« Tharmon Gaïdon ne tardera plus. Selon tout ce que j'ai lu sur le sujet, les signes ne trompent pas. La moitié des serviteurs ont croisé dans les couloirs des défunts qu'ils connaissaient de leur vivant. C'est si fréquent qu'ils n'ont même plus peur. À quelques lieues au nord d'ici, des bergers qui conduisaient leurs bêtes au pâturage ont vu une grande ville se volatiliser en un clin d'œil. »
Katswane tourna la tête vers la robuste sœur marron.
« Merci de répéter ce que tu nous as déjà raconté hier, »
dit-elle sèchement. Vérine plissa le front, puis reprit son ouvrage, pensive comme si elle se demandait ce qu'elle pouvait bien être en train de tricoter. Min chercha le regard de Rand et secoua la tête. Dans le lien, le jeune homme capta de l'irritation et de la méfiance, celle-ci le visant spécifiquement, soupçonna-t-il. Parfois, sa compagne semblait capable de lire ses pensées. Eh bien, s'il avait besoin de Katswane, comme Min semblait le croire, qu'il en soit ainsi. Mais il aurait bien aimé savoir ce qu'elle était censée lui enseigner, sinon apprendre son mal en patience.
« Conseille-moi, Katswane. Que penses-tu de mon plan ?»«
Enfin, le gamin pose la bonne question. »
marmonna la légende en posant sa broderie dans sa boîte à couture.
« Tous ces projets sont en cours, certains dont il ne m'a pas parlé, et voilà qu'il me consulte. Très bien. Alors voilà. Faire la paix avec les Séanchaniens nuira à ta popularité.
Une trêve, pas la paix. Et un tel pacte conclu avec le dragon réincarné durera ce que lui-même durera. Après ma mort, ceux qui le voudront pourront de nouveau casser du Séanchanien si ça leur chante. »
Min ferma son livre et croisa les bras.
« Ne parle pas comme ça !»
cria-t-elle, rouge de colère. Dans le lien, Rand reconnut de la peur.
« Les prophéties, Min, » dit tristement Rand.
Le cœur brisé pour elle, pas pour lui. Autant qu'il désira la protéger, comme Elaine et Avienda, il leur ferait du mal à toutes les trois au bout du compte.
« Je t'interdis de parler ainsi. Les prophéties ne disent pas que tu dois mourir, et je ne te laisserai pas nous quitter. Elaine, Avienda et moi, nous t'en empêcherons. »
Min foudroya du regard à Livia, destinée à aider Rand à mourir, selon ses propres visions. De nouveau, ses mains glissèrent vers ses manches, où elle cachait des couteaux.
« Du calme, Min, » fit Rand.
Sa compagne éloigna les mains de ses armes, mais elle serra les dents, et un flot de détermination déferla dans le lien. Min avait-elle vraiment l'intention de tuer Alivia ? Un souci de plus, ça. Encore que, même si elle essayait, les chances de succès seraient minces. Tenter de lancer une lame sur cette Séanchanienne, ça revenait à s'en prendre à une Aes Sedai. En revanche, c'était risqué d'être blessé, voire tué. Si Alivia semblait ne pas connaître beaucoup de tissage, dès qu'il s'agissait des armes, elle les maîtrisait tous.
« Donc, comme je disais, »
fit Katswane, haussant le ton,
« faire la paix avec les Séanchaniens nuira à ta popularité. »
D'un bref regard, elle tend sa mine, puis elle se tourna vers Rand, ses yeux noirs implacables dans son visage de marbre.
« En particulier au Tarabon, en Amadicia et en Altara, mais aussi partout ailleurs. Si tu laisses aux envahisseurs ce qu'ils ont déjà pris, quel pays leur céderas-tu ensuite ? La plupart des dirigeants se poseront la question. »
Rand revint s'asseoir et s'adossa à son siège.
« La popularité, je m'en fiche. À Théar, j'ai franchi ce terrain gréal en forme de portique. Tu le savais, Katswane ? »
Les ornements en or oscillèrent quand la légende hocha la tête.
« Une de mes trois questions au Aelfin fut « Comment puis-je remporter l'ultime bataille ?»«
Tu as pris un risque, car cette question concerne le ténébreux. En toute logique, les conséquences devaient être très déplaisantes. Quelle fut la réponse ?»«
Le nord et l'est ne feront qu'un, l'ouest et le sud ne feront qu'un, et les deux blocs ne feront qu'un. »
Très habile, Rand fit un rond de fumée, puis, tandis que celui-ci s'élargissait, on propulsa un autre en son centre, comme la mouche d'une cible. Ce n'était pas toute la vérité. Il avait demandé comment gagner et survivre. La seconde partie de la réponse était « Pour vivre, tu dois mourir. Sûrement pas une référence qu'il évoquerait de sitôt devant Mine, ni quiconque d'autre, à part Olivia. À présent, il allait devoir se débrouiller pour mourir afin de vivre. Au début, j'ai cru que je devrais tout conquérir, mais c'était une mauvaise interprétation. Et si ça voulait dire que les Saint-Chaniens devront tenir l'Ouest et le Sud, ce qui est déjà le cas, et que nous devions nous allier pour livrer l'ultime bataille, nous allier avec les Saint-Chaniens, je veux dire.
« C'est possible, »
concéda Katsuane.
« Mais si tu conclus cette... trêve, pourquoi as-tu envoyé une armée qui semble puissante en Arad-Doman et renforcé les troupes déjà présentes en Ilian ?»«
Parce que Tarmon Gaidon approche, Katsuane. Je ne peux pas combattre en même temps les ténèbres et les Saint-Chaniens. Ce sera soit une trêve, soit une victoire écrasante pour moi, à n'importe quel prix. Les prophéties disent que je dois lier à moi les neuf lunes. Ce que ça signifie, je l'ai découvert il y a quelques jours. » Dès que Bachéré sera revenu, je saurai où et quand je rencontrerai la fille des Neuf Lunes. La question, c'est comment la lier à moi. Ce sera à elle de me donner la réponse.
Rand parlait avec un grand naturel désormais, en soufflant des ronds de fumée en guise de ponctuation. Les réactions à sa tirade furent très diverses. Loyal finit d'écrire à toute vitesse, soucieux de n'omettre aucun mot. Placide, Arilin et Enaïla continuèrent à jouer. S'il fallait danser avec les lances, elles étaient prêtes. Hochant furieusement la tête, Olivia espérait sûrement que Rand écraserait ceux qui l'avaient contrainte à porter un Adam pendant 500 ans. S'étant déniché un autre gobelet, Loghain y avait vidé la carafe, mais il ne buvait pas, le visage de marbre. À présent, c'était Rand que Vérin étudiait, mais il l'intéressait depuis toujours. Quant à Mine, pourquoi était-elle triste à mourir? Enfin, Katsuane.
Une pierre se fend quand on la frappe assez fort,
dit-elle, son visage d'Aes Sedai impénétrable.
L'acier peut se briser, tout comme le chêne qui lutte contre le vent. Le roseau, lui, se plie et survit.
Un roseau ne gagnera pas l'ultime bataille. La porte s'entrouvrit pour laisser passer Étienne.
Seigneur dragon, trois augiers viennent d'arriver. Ils ont été ravis d'apprendre que Maître Loyal est ici. Dans le trio, il y a sa mère.
Ma mère ?
Couina bizarrement l'augier. Un couinement qui valait bien des vents hurlants dans une grotte. Se tordant les mains, Loyal se leva, oreille en berne. Dans son affolement, il renversa sa chaise.
« Que vais-je faire, Rand ? »
demanda-t-il, en regardant à droite et à gauche, comme s'il cherchait une autre sortie que la porte.
« Les deux autres, ça doit être l'ancien Aman et Erit. Comment me tirer de là ?»«
Maîtresse Kovril a un besoin urgent de vous parler, Maître Loyal, »
précisa le vieux serviteur.
« Très urgent. Tous les trois sont trempés jusqu'aux os, mais ils vous attendent à l'étage, dans le salon du quartier des Augiers. »«
Rand, que vais-je faire ?»«
Tu es prêt à épouser Erit, non ?» dit le jeune homme, tentant de se montrer aussi amical que possible. Sauf avec Mine, il avait du mal à être gentil.
« Et mon livre ? Mes notes sont incomplètes, et je ne saurai pas la fin de l'histoire, parce que mon épouse me ramènera au sanctuaire Tsofu avec elle. »
« Mauviette !»
marmonna Katsuane. Elle reprit sa broderie et mania avec précision son aiguille. Son ouvrage représentait l'antique symbole des Aes Sedai. Dans un cercle noir et blanc divisé par une ligne sinueuse, le croc du dragon et la flamme de Tarvalon côte à côte.
« Va voir ta mère, Loyal. Si c'est bien Kovril, fille d'Ella, fille de Sung, mieux vaut ne pas la faire attendre. Mais ça, je suppose que tu le sais. »
Loyal sembla tenir le conseil de Katsuane pour un ordre. Après avoir essuyé sa plume, il reboucha son encrier, mais il fit tout ça très lentement, les oreilles de plus en plus tombantes.
« Bon !»
lâcha Vérin en inspectant son curieux ouvrage.
« Je crois que j'ai fait tout ce que je pouvais ici. C'est le moment d'aller retrouver Thomas. Avec la pluie, son genou le met à la torture, même s'il le cache à tout le monde, moi comprise. »
Elle jeta un coup d'œil dehors.
« On dirait que ça se calme.
Moi, je vais rejoindre l'âne, » annonça Nineveh.
Là où il est, la compagnie sera bien meilleure. »
Pour qu'on la comprenne bien, elle foudroya Olivia et Loghain du regard, puis tira très fort sur sa natte.
« Le vent me souffle qu'une tempête approche, Rand. Et tu sais que je ne parle pas d'un banal orage.
L'ultime bataille ? Quand ?» En matière de climat, en écoutant le vent, l'ancienne sage-dame prévoyait souvent la pluie à une heure près.
« Peut-être, oui. Quand, je l'ignore. Mais n'oublie pas, une tempête approche, et elle sera terrible. »
Dehors, le tonnerre gronda, juste au-dessus de leur tête.